C'est tout faire, rien à faire. Un conte tzigane.
Ce tzigane-là savait scier, clouer, visser, cimenter, raboter, recoller, assembler, piocher, planter, élaguer, rapistoler, tapisser, flouder, forger et bien d'autres verbes en « et ». Et tout ça à la perfection. Des doigts en or, des doigts de fée, malgré ses grosses mains d'homme baraqué. C'est pourquoi, dans la tribu, on l'appelait « c'est tout faire » et qu'on lui donnait autant de travail qu'il voulait. Enfin, quand il le voulait bien. Et il voulait peu. Très peu.
Quand vraiment il n'avait plus aucun sou dans ses poches, quand la faim commençait à lui tordre le ventre, alors seulement il sortait de sa roulotte, réclamait un peu de travail, gagnait juste de quoi s'acheter un peu de pain et de lard, puis il retournait sur sa paillasse, attendre que le temps passe. On ne pouvait même pas dire qu'il était paresseux. Quand il se mettait à l'ouvrage, il travaillait vite et bien, et ne ménageait ni sa peine ni sa sueur. Simplement, il empochait les sous qu'on lui donnait, achetait quelques maigres provisions et disparaissait dans son logis. Et pas question de le déranger, même pour une affaire pressante. Un toit qui s'écroulait, un tuyau qui fuyait. Celui qui osait frapper à sa porte était accueilli par des injures. Et il en connaissait beaucoup. Quand on le suppliait de venir, il jetait un œil à côté de lui. Et s'il apercevait encore un morceau de pain, juste de quoi tenir un jour ou deux, il répondait
« Rien à faire, rien à faire, je ne viendrai pas. »
C'est la raison pour laquelle on l'appelait aussi « Rien à faire ».
Sa roulotte aurait pu être belle et confortable. Elle était spacieuse, claire, installée près d'un ruisseau, ce qui lui évitait de trop se déplacer pour sa provision en eau. Non loin d'un magnifique chêne sous lequel il aurait pu s'allonger pour faire ses interminables siestes. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien, strictement rien, à part sa paillasse sale et vieille, un gobelet cabossé et une assiette ébréchée. Quand les autres tziganes le voyaient vivre comme un malheureux, ils lui disaient
« Mais pourquoi tu ne travailles pas un peu plus? Tu pourrais être le plus riche d'entre nous. Toutes les fermes alentour réclament tes services. »
Il leur rétorquait
« Je n'ai besoin de rien, juste de ne pas mourir de faim. »
« Mais que fais-tu toute la journée ?»«
Je fais du rien, donc je ne fais rien, et rien à faire du reste. »
En fait, c'est tout faire n'avait aucun besoin, car il n'avait aucun désir. Sa vie était un grand vide qu'il ne songeait à remplir ni de plaisir, ni d'amitié. Une vie sans envie qu'il nourrissait d'un rien. Rien qu'un peu de pain et de lard. Or, voilà que par un bel après-midi, où il était sur sa paillasse, les yeux ouverts sur le vide de son existence, il voit entrer sans frapper un homme gras, presque nu, avec juste un morceau de tissu sale et déchiré autour de la taille.
« Je viens m'installer chez toi. Tu es mon seul ami possible. » « Je n'aime que ceux qui n'ont rien et ne veulent rien. D'ailleurs, je m'appelle le gros rien. »«
Tu en as du culot pour débarquer chez moi comme ça. Ce n'est pas parce que je suis rien à faire que je n'ai pas d'éducation. Mais nous, les tziganes, nous ne refusons pas l'hospitalité à celui qui passe. Tu peux t'allonger dans un coin, mais ne me demande rien. Ni à manger, ni à boire, ni à discuter. Rien. »«
Puisque je te dis que je suis le gros rien, je n'ai besoin de rien. »
Et pour montrer sa bonne volonté, le gros rien s'allonge et s'endort. C'est ainsi que rien à faire et le gros rien commence à cohabiter. De temps en temps, quand son ventre gargouille trop, rien à faire prend sa casquette de c'est tout faire, travaille une ou deux journées et rentre flémardé à nouveau. Mais il se rend vite compte que le gros rien prend de plus en plus de place. Chaque jour, il grossit. Sa graisse commence à dégouliner. Son ventre atteint presque le plafond. Ses cuisses épaisses et horriblement poilues s'étalent avec impudeur. Ses lèvres trop bouffies laissent couler une bave grise et visqueuse. Son haleine dégage une odeur de poubelle. Malgré son indifférence à tout, un jour, rien à faire, veut mettre le gros rien dehors. Il le réveille, le secoue et lui ordonne d'aller voir ailleurs. Mais le gros rien ouvre un œil vitreux et entre deux ronds malodorants répond simplement
« Bouge-moi si tu peux. J'ai trouvé la maison du rien, j'y reste. »
Mais même avec son habileté de s'étouffer, il n'y parvient pas, et le gros rien continue d'envahir l'espace. Rien à faire doit même dormir les jambes repliées sous lui, tellement le gros rien a grossi. Pour échapper à l'odeur et au manque de place, rien à faire va de plus en plus souvent dehors. Et c'est en sortant qu'un jour, il découvre le printemps. Il regarde les arbres fruitiers habillés de fleurs roses ou blanches, et se dit tout étonné.
« Comme c'est joli !»
Il se surprend à poser son nez sur une rose fraîche de rosée et à vibrer d'une sensation qu'il ne connaît pas en respirant son parfum. Il dresse l'oreille en entendant le chant d'un oiseau qui appelle sa compagne. Il rit tout seul en suivant les pirouettes légères de deux petits écureuils qui sautent de branche en branche.
Et lorsqu'il s'allonge dans l'herbe pour se reposer, on ne perd pas ses habitudes si facilement. Il se rend compte que ses siestes si pleines de rien sont aujourd'hui remplies de couleurs, de sons, d'odeurs qui tourbillonnent dans sa tête. Rien à faire est tout chamboulé par ses émotions nouvelles, qui lui font peur parce qu'il ne sait pas les nommer. À la nuit, il rentre dans sa roulotte, encombré par le gros rien. Le vide si coutumier le reprend, et pour tout dire, le rassure. Rien à faire n'est pas prêt à renoncer à son cher rien, dont il tire une certaine fierté.
À force de marcher sur les sentiers de ce printemps déconcertant, arrive ce qui devait arriver. Plusieurs fois, il croise Anka, la fille du meilleur chaudronnier de la tribu. Elle marche en ondulant des hanches. Ses longs cheveux noirs se balancent au rythme de ses pas, et son rire en cascade le fait frissonner. Ses siestes, maintenant, ne sont plus emplies de fleurs de pêcher ou de petits écureuils, mais de l'éclat de grands yeux noirs, de mains qui dansent dans le vent, et d'un immense sourire. Rien à faire ne travaille plus du tout. Il ne mange même plus. Pour la première fois, rien à faire à l'esprit occupé. Occupé par un visage qui le hante.
Un jour, sans bien savoir ce qui lui prend, il ose aller frapper à la porte du chaudronnier et d'un trait lui annonce
« Je te demande ta fille en mariage !»
Le chaudronnier éclate d'un grand rire sonore.
« Ma belle Anka, tu n'y penses pas. Regarde-toi, sale et pouilleux que tu es. Que veux-tu lui offrir comme vie? Une roulotte vide au croupier un inconnu immonde. Quand je pourrai t'appeler s'étouffer du lundi au dimanche, quand plus personne n'osera te nommer rien à faire, quand tu me prouveras que ma fille ne vivra pas dans la misère, reviens me voir. Pour l'instant, mes chaudrons m'appellent. »
Et tout en continuant à rire, le chaudronnier referme sa porte.
On le savait, s'étouffer n'est pas un paresseux. Le voilà motivé pour se mettre à l'ouvrage. Plus il travaille, plus on le réclame. Et sans s'en rendre compte, il amasse un beau pactole d'argent. Les gens de la tribu entendent même qu'après sa journée de travail, Sétoufer continue dans sa roulotte de scier, de clouer, de marteler. Avec tous ses va-et-vient, ses courants d'air, le gros rien, mine de rien, se fait de plus en plus fragile, petit, rabougré. Un matin, en bougonnant, il se lève, sort sur la pointe des pieds et disparaît. Le dimanche où ils vont assister aux allers-retours de Sétoufer pour rapporter des seaux et des seaux d'eau de la rivière, ceux de la tribu ont compris qu'il se passait un événement exceptionnel. Ils l'ont vu astiquer les parois de la roulotte, enfin débarrasser du gros rien, puis accrocher des petits rideaux à carreaux aux fenêtres et même des rubans rouges.
En fin d'après-midi, rasé, habillé de propre, un bouquet à la main, Sétoufer a frappé à la porte du chaudronnier. La tribu a retenu son souffle et a attendu la suite.
Le père d'Anka a ouvert, a regardé le beau jeune homme et silencieux, d'un geste de la main, l'a fait entrer. Beau, baraqué, doigt de fée, amoureux, il a séduit la belle Anka. Le père a d'abord voulu voir l'intérieur de sa roulotte avant de donner son accord. La place était nette, propre et lumineuse. On a célébré leurs noces juste au début de l'été. Une belle noce sous le soleil et au son mélancolique de l'accordéon. Doigt de fée, mais encore un peu empoté par toutes ces années de rien. C'est tout faire, on n'a pas osé danser. Mais Anka aura bien le temps de lui apprendre désormais.